Alors voilà, on a aujourd'hui sept objets sur cette vitrine. Michel, le premier, ça a l'air assez opaque comme ça, mais je crois savoir que c'est un compas retourné.
C'est un compas inversé. Inversé. Alors pour expliquer les choses, Jacques-Yves Le Toumelin a fait un tour du monde dans une configuration classique avec navigation astronomique et avec comme instrument de navigation deux compas. Un compas de route qui se trouvait près de la descente du bateau et qui lui permettait de suivre le cap qu'il avait déterminé à l'avance d'après ses mesures.
Alors, tu fais bien de préciser, moi je le rajoute, pour les non-marins, un compas c'est une boussole, mais quand on est en mer, on appelle ça un compas.
Tout à fait, c'est exactement cela, c'est une boussole, effectivement. Et puis surtout, il y avait un autre instrument qui est présenté ici, qui a une particularité intéressante, c'est un compas inversé. Ça veut dire que ce compas ne s'observe pas par au-dessus, comme un compas classique, mais par-dessous. Pourquoi ? Parce que Jacques-Yves Le Toumelin l'avait placé au-dessus de sa couchette. Et quand il somnolait ou se reposait, il pouvait d'un seul coup d'œil, sans avoir à se relever, vérifier si le cap était le bon et si le bateau avait défié sa trajectoire. Alors, autre précision importante, pourquoi ? Parce que quand Jacques-Yves Le Toumelin a conçu Curune, Curune a été construit, rappelons-le, entre 1946 et 1948, quand le bateau a été construit, Jacques-Yves Le Toumelin avait, dans sa perspective d'un tour du monde, imaginé un bateau capable de naviguer au vent arrière sous trinquette jumelle, barre à marée. Ça veut dire que on mettait sur l'avant du bateau deux voiles opposées l'une à l'autre, tangonnées, avec donc un espar qui leur permettait d'être déployées. Et cette technique lui avait été inspirée par un ami de son père, qui se trouvait être marin-marie. Et marin-marie est le premier navigateur qui, dans les années 30, a fait une traversée de l'Atlantique et a expérimenté cette technologie permettant, sous trinquette jumelle, au vent arrière, de naviguer barre à marée. Ce qui avait l'énorme avantage pour un navigateur de pouvoir se reposer, dormir, en laissant son bateau naviguer comme il le souhaitait. Précisons, pour remonter une seconde en arrière quand même, c'est que le bateau a été conçu, on en reparlera tout à l'heure, dans une perspective très précise d'être un bateau marchant au portant. Ce n'est pas un bateau de près, c'est un bateau qui marche au portant, puisque la majorité de l'itinéraire du tour du monde déterminé par Jacques-Yves Le Toumelin se faisait au portant.
Alors, excuse-moi, tu sais, je suis toujours là pour les gens qui ne sont pas tout à fait marins. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première, c'est quand on parle de portant, ça veut dire qu'on a le vent qui vient plutôt de derrière soi.
De l'arrière.
Alors qu'au près, on remonte vers le vent, ce qui est plus compliqué. Et puis surtout, quand tu parles de barre attachée, aujourd'hui, on parle de pilote automatique. Et évidemment, c'est le moment, à l'époque, ça n'existait pas le pilote automatique. Et donc, il fallait être tout le temps à la barre. Donc, quand on était en solitaire sur un bateau, c'était très compliqué de simplement dormir, manger. Donc là, avoir conçu un bateau qui permet de naviguer barre attachée, et donc on l'imagine bien, ça sous-entend que barre attachée, il va droit. Ouais. Et c'était ça, une forme d'innovation déjà à l'époque, d'avoir un bateau conçu et capable d'aller droit barre attachée, et donc capable de faire du solitaire en dormant et en mangeant.
Oui, alors soyons quand même précis, Jacques-Yves Le Toumelin ne passait pas son temps avec la barre à marée. Il fallait les conditions optimales de portant pour le faire, devant et arrière. Mais c'était donc dans la définition du projet, et je crois que Jacques-Yves Le Toumelin a eu la particularité, c'est le troisième Français qui a fait un tour du monde à la voile, rappelons-le pour précision, le premier a été Alain Gerbaud, le deuxième a été Louis Bernicot avec Anaïta, et Louis Bernicot est totalement méconnu aujourd'hui, et le troisième c'est Jacques-Yves Le Toumelin avec ce tour du monde du mois de juillet 1949 jusqu'en 1953.
Oui, donc 4 ans, dont on voit les dates détaillées sur un des panneaux qui est dans le local des Amis du Curune, à côté de l'ancienne criée. L'objet numéro 2, c'est un sextant d'époque.
Oui, c'est un sextant. Alors, ça n'est pas celui de Jacques-Yves Le Toumelin que nous n'avons pas. Donc, à ce sujet, on peut rappeler une anecdote qui est la suivante, c'est que Jacques-Yves Le Toumelin avait hérité, lorsqu'il naviguait, du sextant de son père. Son père était officier de la marine marchande, il avait fait une première guerre héroïque dans la marine nationale, et son père avait la particularité d'avoir navigué sur les derniers trois mâts et quatre mâts à Nantes, donc d'avoir fréquenté les derniers, les ultimes grands voiliers, Et aux yeux de son fils Jacques Le Toumelin, le fait que son père ait connu cette époque de la marine à voile était pour lui un motif de fierté indicible. Donc Jacques avait hérité du sextant de son père, et il y a à ce sujet une anecdote qui est la suivante, c'est que avant la construction de Purune, en 1944, Jacques est parvenu en économisant sur son maigre salaire de marin-pêcheur et de pêcheur à la grande pêche, puisqu'il a fait des campagnes en Méditerranée. Avec l'argent qu'il avait gagné, il a construit un premier voilier, plus petit que Purune, qui s'appelait Tonnerre, un voilier de 8,50 m. Et avec ce voilier, il projetait de faire le tour du monde, mais malheureusement, ce bateau lui a été volé pendant l'épisode de la poche de Saint-Nazaire, puisque les Allemands occupaient jusqu'à la fin de la guerre ce territoire. Ce bateau lui a été volé, a été jeté à la côte, et son ami, Jeannot Kilgar, qui était un marin pêcheur du Croisic, avait réussi, avant que les Allemands s'emparent du bateau, à récupérer le sextant de son père. Et c'est le sextant de son père qui l'a accompagné pendant tout son tour du monde. Mais malheureusement, ce sextant, nous ne l'avons pas. Je pense qu'il appartient toujours à la famille de Jacques Le Toumelin, puisque son épouse et ses enfants habitent toujours à Gouenved, sa propriété de Pimbron.
Alors, pour les non-marins, un sextant est un appareil de mesure d'angle qui permet, à partir de calculs de l'angle du soleil avec l'horizon ou d'un autre astre nocturne, une étoile, et avec des tableaux de calcul très complexes quand même, il faut être mathématicien presque pour utiliser un sextant, ça permet de se positionner quand on est au milieu de l'océan. C'était les seuls, avant le GPS, c'était la seule manière d'avoir sa position.
De manière exacte.
De manière exacte.
Tout à fait. Et là-dessus, précisons autre chose, c'est que Jacques-Yves Le Toumelin a lui-même une formation maritime poussée, puisque, à l'instar de son père qui était capitaine au long cours, lui est entré à l'école d'hydrographie de Nantes en 1941, donc précisons un peu les choses, c'est qu'avant 1941, en 1939, Jacques-Yves avait à l'époque 19 ans. Jacques-Yves a voulu présenter le concours d'entrée à l'école navale, mais pour des raisons de guerre, ce concours n'a pas eu lieu, et Jacques-Yves a choisi, après cette insatisfaction, de faire une formation maritime à l'école d'hydrographie de Nantes, où il est entré en 1941. Il habitait une petite chambre dans un immeuble de la rue de Gigan à Nantes, et il a passé la première partie du diplôme de capitaine de long cours. Donc il est breveté capitaine de long cours théorie.
D'accord.
Logiquement, s'il avait voulu naviguer, il aurait fallu faire une deuxième partie applicative qu'il n'a pas faite. Mais lui, ça n'importait pas. Ce qui lui importait, c'était de maîtriser les règles et les principes de navigation. Donc, c'était un marin confirmé. Et c'est comme cela qu'il a appris, justement, à utiliser le sextant.
Excellent. Alors, l'objet numéro 3, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'objet numéro 3 est très symbolique. C'est un feu de navigation. À l'époque, Jacques-Yves Le Toumelin avait une lampe torche avec quelques piles, mais les piles salies ne duraient pas très longtemps. Et il avait des feux de position au pétrole.
Au pétrole, oui.
Qui permettaient de chaque côté dans les haubans de localiser le bateau et surtout par la position à bâbord et à tribord de ces deux éclairages, de savoir dans quelle angulation arrivait le bateau quand il arrivait vers un bateau.
Donc déjà coloré
à distance.
Vers rouge
Non, pas du tout. À l'époque, c'était la même couleur de chaque côté, mais simplement quand on voyait de manière symétrique les deux éclairages allumés, on savait que le bateau devait droit devant. Lorsqu'on n'en voyait qu'un, on savait qu'il venait latéralement.
Oui.
C'était un peu empirique, mais ça permettait de voir le bateau à distance.
L'objectif, c'est éviter les collisions entre navires.
Tout à fait.
On parle de pétrole, beaucoup de choses marchent au pétrole, puisque quand on arrive à l'objet numéro 4, on arrive sur ce fameux Primus, ce réchaud. Mais ça, c'est l'original.
Oui, exactement. C'est le réchaud sur lequel Jacques-Yves Le Toumelin a cuisiné pendant les 3 ans de son tour du monde. Alors, c'est un réchaud à cardan, ce qui veut dire que le brûleur est tout à fait positionné de façon horizontale, quelle que soit la gîte du bateau. Le cardan permet de compenser la gîte au fur et à mesure. Et le principe est un peu empirique, mais marche très bien. Vous avez un réservoir dans lequel on met du pétrole, et puis l'agitation par les mouvements de la mer de ce pétrole dégage des vapeurs. Il y a une petite pompe qui se trouve sur le réservoir, et en pompant sur la pompe, on crée une sorte de gaz que l'on enflamme et qui permet par combustion de chauffer les aliments que l'on prépare. Alors c'est assez émouvant comme appareil, puisqu'il faut se dire que pendant 3 ans, ça a été le lien permanent de Jacques-Yves Le Tourmelin avec la cuisine qu'il faisait à bord.
Oui, et la vie, hein, sans cuisiner, on mange pas. Et puis quand on est en mer, un peu de chaud, c'est alors, quand même très très important le chaud. Hein.
Exactement, et alors on sait à peu près ce qu'il mangeait, beaucoup de céréales, des pommes de terre. Le principe, c'est qu'il emportait des vivres frais à l'époque parce qu'il n'avait pas énormément de conserves. Il se nourrissait du poisson qu'il pêchait, qu'il préparait. Poisson à la tahitienne avec, par exemple, du citron et autres pour le faire cuire simplement en termes de
marinage,
préparation.
En
marinade, effectivement. Et puis, il avait surtout le ravitaillement que lui procuraient dans chacune des étapes les personnes qu'il rencontrait. Et à ce sujet, une anecdote qui est assez significative, c'est que dans le livre que j'ai écrit il y a 3 ans maintenant, je raconte que quelque part, Jacques-Yves Le Tourmelin a été pour une part sustenté par ce que j'appelle la diaspora bretonne. Alors expliquons les choses de manière plus simple, c'est que lorsqu'il arrivait dans une île, bien souvent, les enfants qui jouaient sur la plage disaient « Tiens, un bateau est arrivé », et puis ils montaient à la mission pour dire au missionnaire « Il y a un bateau qui est là ». Et le missionnaire posait des questions sur quel était ce bateau, son origine, et les enfants lui décrivaient un drapeau curieux qui était en fait le drapeau de la croix noire sur fond blanc, qui était en fait le drapeau de l'ancienne amirauté bretonne avant le Guenadu qui est arrivé beaucoup plus tard. Et donc le missionnaire est informé qu'il y avait en fait un bateau français et un bateau breton qui se trouvaient aux abords de l'île. Et le plus souvent, le missionnaire étant lui-même breton, recevait Jacques-Yves Le Tourmelin. Des liens d'amitié très forts se sont établis entre Jacques-Yves Le Tourmelin et de nombreux missionnaires. Et donc avec eux, il a pu visiter les lieux, établir des liens d'amitié, est également ravitaillé en termes de nourriture, de vivres frais. Et donc, il y a un lien entre ces livres et ce réchaud qui rappelle une histoire révolue.
Excellent. L'objet 5, alors c'est des poulies d'origine du Curune aussi
je pense que oui, parce que dans ce local de la recyclerie, ce local a une histoire parce qu'il a hébergé pendant longtemps Curune, avant sa phase de réfection et après. Et on y trouvait également tout un bric-à-brac d'objets cédé par Jacques-Yves Le Tourmelin lorsqu'il a vendu son bateau pour un franc symbolique en 1987. Et ce bric-à-brac entreposé là comprenait d'anciennes poulies ou des petits riens ne pouvant pas servir à grand-chose, mais dont certains ont symboliquement vécu le tour du monde. Donc il est très possible que ces poulies aient participé au tour du monde.
Alors, je pense que oui. Pour notre imaginaire, j'en suis ravi. le 6, alors c'est un compas à pointe sèche. Ça sert à calculer les distances sur une carte.
Oui.
D'origine, je crois, là aussi.
Il est d'origine, c'est celui de Jacques-Yves Le Tourmelin. Donc, on peut imaginer que, relevant sur la carte les distances parcourues, il utilisait ce compas à pointe sèche pour mesurer les écarts et projeter en même temps les étapes de la route à venir.
Ouais. Excellent. Et donc, le 7, c'est le livre que tu as écrit, un voilier nommé Curune. On peut le trouver en librairie ?
Oui, alors ce livre est paru en 2021, donc au mois d'octobre, à l'occasion du salon du livre du Croisic qui s'appelle Plume d'Équinoxe. Et ce livre a été écrit dans un double objet. Le premier objet, c'était d'avoir fait un constat qui est le suivant, c'est que nous étions en 2021 à un moment où l'on pouvait encore retrouver des témoins ayant connu Jacques-Yves Le Tourmelin. Donc il semblait important de capter leurs souvenirs. Alors un exemple très concret pour expliquer les choses, la rencontre de René Billoré, qui travaillait comme apprenti charpentier de marine au chantier Leroux au Croisic à l'époque de la construction de Curune. Donc il a travaillé sur le bateau lui-même, il a pu de première main raconter les souvenirs très vivaces qu'il avait encore de ce chantier. Donc, première chose, c'était de rencontrer les derniers témoins. Et le deuxième objet, qui me semblait la réparation d'une sorte d'injustice, c'est que, en dépit du rôle important exercé par Jacques-Yves Le Tourmelin, il n'y a jamais d'ouvrage expliquant sa vie, la biographie familiale, expliquant également ses rencontres. Et comme Jacques-Yves Le Toumelin a écrit un livre qui était un véritable best-seller, qui s'appelle « Curune autour du monde », mais qui est un peu un livre de bord, et qui n'explique pas toujours le contexte de l'environnement dans lequel le bateau était constitué et Jacques-Yves a navigué, ben je trouvais qu'il était légitime de mettre un peu de contexte, d'explication autour du personnage. Donc le livre, en fait, comprend plusieurs parties. La première rappelle l'histoire de Jacques-Yves Le Toumelin et la jeunesse de Curune. Et la deuxième partie évoque la vie de Curune depuis qu'il appartient à la ville du Croisic et que les amis du Curune procèdent à son entretien, également à ses navigations. Donc c'est un ouvrage de témoignage et un ouvrage de mémoire, en fait, sur cette page et ce navigateur méconnu.
Bah, merci beaucoup pour ces explications de tous les objets de cette vitrine prêtés gracieusement par les amis du Curune et qui, encore une fois, ne sont qu'un extrait de la collection plus vaste, dont la maquette magnifique dans le local des amis du Curune sur le port, dans l'ancienne criée, dans le bâtiment. Il y a des horaires de permanence et d'ouverture cet été
Oui, alors le principe, c'est que nous sommes ouverts tous les samedis de 11h à 13h pendant les mois d'été. Nous sommes également ouverts sur demande quand un groupe veut visiter Curune ou avoir une
expérience. D'accord. Donc les contacts sont visibles sur le premier panneau en bas que l'on a vu en arrivant.
Oui, et on trouve également ces informations sur la porte du local même.
Sur la porte du local.
Et sur la porte du local, nous avons également un panneau qui est un calendrier permettant de préciser quelles sont les manifestations nautiques auxquelles Curune va participer pendant les mois d'été. Donc on a le programme de navigation entre du mois de juin jusqu'au mois d'octobre.